Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui Jérôme Tchiboudjian, directeur général adjoint MBX. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Alors, bon, MBX, c'est un grand mot. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de décrypter, mais on va commencer déjà par votre parcours. Vous êtes un Bouygues-man, comme on dit.
On peut dire ça, puisque je crois que je dois arriver à peu près à mi-parcours dans ma carrière avec la moitié de Bouygues et puis une autre moitié... assez intéressante avec les 8 dernières années là, passées chez MBX. Très rapidement, j'ai commencé effectivement en Ile-de-France, chez Bouygues Construction, à faire du développement immobilier façon Link City, que vous connaissez bien aujourd'hui. Et puis, à faire pas mal de tertiaire, plutôt des produits, du logement, du tertiaire, un petit peu d'aménagement au tout début de ma carrière. Ça m'a donné une suite.
L'envie d'aller plus loin.
L'envie d'aller plus loin, tout à fait. Ça m'a rattrapé après sur la deuxième partie. Et puis, je suis passé, à force de faire le métier de promoteur, je suis passé par Marignan. AXA également, en faisant du property development, mais à l'échelle européenne. Et puis, chez Bouygues Bâtiment International également, à m'occuper du développement immobilier de la zone Europe et du Maroc.
C'est ça, ils vous ont rattrapé.
Ils m'ont rattrapé, parce qu'à un moment, on avait besoin, effectivement, chez Bouygues, d'homogénéiser un petit peu les bonnes pratiques au niveau européen. Donc, je suis allé dans ce contexte-là. Et puis enfin, j'ai lancé l'activité immobilière de Mathieu Hébard. J'étais directeur général de Mathieu Hébard Immobilier, avant de rejoindre MBX, dont on va parler.
Voilà. Alors, MBX, c'est quand même une entité où, de mémoire, oui, il y a quand même un certain nombre de parts, ou en tout cas, une intervention importante. Il y a une évolution aujourd'hui dans MBX. Vous pouvez nous raconter en deux mots cette histoire,
hein. Oui, en deux mots, je me suis fait un petit peu rattraper par la patrouille, effectivement. Il y a une petite dizaine d'années, Alstom et Bouygues se sont rapprochés dans un cadre de recherche et développement, innovation, et ils ont eu l'idée de lancer une start-up qui s'appelle MBX à ce moment-là, pour travailler autour de la mutualisation énergétique tous usages, c'est-à-dire entre tertiaires, résidents, espaces publics, et derrière cette belle idée de se dire... produisons localement et consommons localement toute cette production, et ils ont souhaité intégrer du numérique.
Le développement durable, vraiment in situ sur les quartiers, est-ce que, et sur les grandes AC et les grands espaces de développement et d'aménagement, est-ce qu'aujourd'hui le modèle fonctionne encore, hein?
Le modèle, c'est, j'allais dire, il fonctionne encore. Il va commencer à fonctionner surtout. C'est-à-dire que, à l'origine, on est entre ingénieurs et techniciens. C'est-à-dire qu'on est là pour s'assurer que, globalement, effectivement, ça peut marcher. On peut mettre du numérique au profit de cette optimisation énergétique d'un quartier, en essayant de déployer une plateforme qui pourrait justement nous donner une bonne visibilité sur la performance d'un quartier. Ça a été le cas avec ICI Grid, notamment avec tout un consortium de 10 industriels, dont Bouygues Immobilier.
C'est ça. Pendant, on va dire, 4-5 ans, vous étiez plutôt dans la théorie, et puis vous avez décidé de passer dans la pratique en rentrant dans des équipes IMGP1, 2, etc., et d'être partie prenante dans ces équipes pour quelque part les aider à poser les bases de cette future réflexion sur le développement durable et sur la production d'énergie in situ dans les quartiers. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment d'avoir commencé à travailler sur des projets intéressants? Est-ce qu'il y a des retours déjà?
Ouais, très 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 intéressant. Au début, je pense qu'on a travaillé, comme vous dites, un petit peu hors sol. Les IMGP, ça a été une bonne rampe de lancement, mais on a eu aussi des très bonnes, un très bon travail fait avec notamment Paris Métropole Aménagement et la ville de Paris sur la SEDAC Clichy-Batignolles. On a développé le premier smart grid, on va dire, de la région parisienne, de la ville de Paris en tout cas, sur la ZAC Clichy-Batignolles, avec une vraie remontée de données et savoir ce qu'il se passait sur ce quartier qui fait quand même plus de 350 000 m².
C'est ça. Alors que se passe-t-il? Donnez-moi un peu au-delà des chiffres et au-delà des termes smart grid, etc. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans sur le plancher des vaches, on va dire?
Sur le plancher des vaches. Très simplement, je crois qu'on a tous envie, on est un petit peu tous comme Saint-Thomas, on a besoin de voir. Et derrière de belles promesses, vous êtes vous-même architecte, on conçoit des bâtiments, des quartiers, on met beaucoup de performances ou des objectifs, et puis finalement tout ça se bâtit et on ne sait pas trop comment les choses se comportent. Sur Clichy, en fait, on a réussi à capter énormément d'informations, tant sur le réseau de chaleur qui est sur une géothermie, tant sur les bâtiments que sur les centrales photovoltaïques. Et on a une sorte de bilan énergétique du quartier qui nous fait voir que tout n'est pas forcément bien atteint. On sait identifier les causes.
Et alors, on peut rattraper un petit peu les erreurs.
Et on peut tout à fait rattraper les erreurs, justement. Et c'est pour ça qu'on a créé un écosystème avec énormément d'acteurs, qui soient mainteneurs, donc éphémères, les bailleurs, les copropriétés, l'opérateur de réseau, Enedis également, bien entendu. Tout ça forme justement une communauté d'acteurs sur lesquels on est capable de jouer et d'agir pour pouvoir revenir sur le niveau de performance que nous avions escompté.
Alors, imaginons, voilà, je suis copropriétaire dans une copropriété à Batignolles. Je sais que mon énergie vient de la géothermie. Et puis, je trouve que ma facture, elle est trop importante, inégale. J'ai besoin d'avoir un peu plus de lisibilité. Voilà, concrètement, comment on apporte une réponse à un copropriétaire qui se pose ces questions ?
Bah, le copropriétaire en question, il va surtout voir qu'il a acheté dans un quartier qui se dit vertueux. Et donc, il a besoin de voir, au-delà même de son logement, que ce quartier tient toutes ses promesses. Et donc, il va voir au travers de l'aménageur, et donc nous, un peu le bras droit ou le bras armé, le bras opérationnel, quelles sont les actions qui font que derrière cette ambition d'avoir un quartier vertueux, et avoir une empreinte environnementale relativement faible, ça soit bien démontré. Donc on est toujours derrière cet engagement de performance que souhaite avoir une collectivité, un aménageur vis-à-vis de son concitoyen. Et son concitoyen, si la performance est à bon niveau, la facture énergétique, elle n'a pas de raison finalement de dériver ou d'augmenter.
D'accord, donc il est convaincu et content sur le sujet.
Parce qu'il a encore une fois des informations qui lui permettent justement d'avoir ce niveau d'information. Juste une petite parenthèse, on avait fait chez MBX, pour le compte de l'ADEME, une étude sur à peu près une cinquantaine de quartiers en France et en Europe sur justement ces tenues de performance. Et on s'est aperçu qu'à peu près 80% de ces quartiers ne tenaient pas leur performance, soit parce qu'on avait les informations, soit parce qu'on était même incapable de réellement les mesurer.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a quand même, on va dire, à 5-7 ans, un petit peu de recul. Donc on sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, refaire des interventions de telle manière qu'on améliore les choses. Et puis, aujourd'hui, justement, parce qu'on a cette urgence absolue, avec ce qui se passe, évidemment. Est-ce que vous pensez qu'on a une possibilité de réintervenir sur des quartiers ? Est-ce que vous voyez les choses d'une manière un peu différente dans votre intervention avec les aménageurs et avec les villes, d'être peut-être plus partie prenante d'équipe, plus interventionniste,
hein ? Il y a une belle évolution aujourd'hui. C'est que je pense que, alors sans que ce soit péjoratif, je pense qu'énormément d'acteurs de l'immobilier sont maintenant éduqués à cela, ne prennent pas ça justement. oui, mais moi, en quelques années, j'ai pu voir un petit peu cette évolution presque intellectuelle. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse réfléchir à comment améliorer le bâti existant. Et donc, on s'intéresse beaucoup justement au patrimoine des foncières et des bailleurs sociaux, notamment, qui ont énormément de logements qui sont, un, des passoires énergétiques, et deux, il y a un souhait réellement de diminuer cette empreinte environnementale et d'avoir une énergie qui soit une énergie presque égale à zéro. Donc c'est, je cite souvent la démarche Energiesprong qui est née au Benelux, aux Pays-Bas, et qui commence à apparaître en France sur des projets opérationnels, pilotés par l'USH notamment, et qui regroupe par région géographique, un certain nombre de bailleurs sociaux qui mettent dans le pot commun leur patrimoine Et derrière ça, il y a...
Donc ça peut être, par exemple, une mixité entre, je pense à certaines villes où, dans les mêmes quartiers, il y a des copros en mal, un petit peu dégradés, et des bailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer aussi bailleurs et copropriétés dégradées se rejoindre sur les problèmes énergétiques,
hein? Bien sûr, parce qu'il y a un point très important, c'est que bon, la ville est faite comme elle est faite. Il y a des zones plus denses que d'autres. Et à ce moment-là, tout l'intérêt, c'est de dire... Moi, j'aime bien consommer localement ce qui peut être produit localement. Et on ne peut pas forcément, sur une petite échelle, mettre toute la production que je souhaiterais. Donc, lorsqu'il y a une mutualisation des actifs, ça permet de développer vraiment des productions d'énergie renouvelable localement, qui pourraient être consommées localement via, justement, maintenant des opérations d'autoconsommation collective. Et ça... Ça permet in fine d'avoir des consommateurs qu'on va éduquer justement à consommer mieux, moins, et puis avoir des productions sur lesquelles on est capable de mesurer la production produite, et donc de mettre les deux l'un face à l'autre, et d'avoir peut-être un bilan énergétique qui est quand même beaucoup plus satisfaisant que l'on a aujourd'hui.
Oui, mais alors du coup, ça fait, on va dire, intervenir sur des créations d'unités de chauffage, etc., pour mieux répondre aux besoins. Mais que fait-on des installations existantes, hein?
Ah ben, les installations existantes, elles vont être largement, soit il y a une partie qui va être démantelée, soit elles vont être optimisées. Si on parle d'électricité, on va effectivement s'intéresser à des sujets de cogénération, à des sujets de centrales photovoltaïques, etc. À une échelle plus grande, on va s'intéresser sur le thermique, à mettre en place des réseaux, non pas à petite échelle, mais des centrales biomasse, etc., elles vont suppléer, elles
pour
vont
combien
remplacer...
de logements, à peu près, à partir de quel nombre de logements ça peut être vraiment intéressant pour un bailleur ou une communauté entre bailleurs copropriétés de faire la démarche,
hein? Sur un bloc de 500 logements, ça commence à être vraiment intéressant. On peut faire vraiment des choses. Je parle vraiment au niveau thermique. Mm-hmm. Au niveau électrique, on peut faire à des échelles beaucoup plus petites. Pour exemple, aujourd'hui, même si c'est sur du neuf, moi je réponds sur des opérations où il y a 8000 m2. Bah, sur 8000 m2, vous pouvez réfléchir effectivement à avoir une vraie démarche smart.
Jérôme, je vous prie de m'excuser. Vous m'avez donné envie de continuer, on va dire, le débat, à la fois sur les zones en rue, si vous en êtes d'accord, mm-hmm. et à la fois sur des exemples de zones d'activité, parce que je pense qu'il y a aussi matière à intelligence nouvelle.
Clairement.
Merci.
Clairement, merci.
Et merci, chers auditeurs. À la prochaine fois.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.